On a moins 7 degrés à Québec. Il est 15h08. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. 2 à 4 cm qui s'accumulent présentement sur la région. Et pour ce soir et cette nuit, ben, rajoutez le double, entre 2 et 4 cm également. La bonne nouvelle, c'est que la température ne bougera pas beaucoup. On est à moins 7 degrés. C'est le minimum pour ce soir et cette nuit. Rajoutez quelques centimètres supplémentaires demain en matinée. Avec des vents en rafale, on commence à être habitué, des rafales à 40 km/h en matinée demain. Maximum de moins 3, vendredi des nuages, maximum de moins 4 et samedi de la neige ou de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Audrey?
Si vous êtes en ce moment sur la capitale Est, hauteur Robert Bourassa, un léger ralentissement, direction Ouest, ça se passe surtout, je vous dirais, hauteur Laurentienne pour l'instant. Le reste, ça roule super bien. Si vous voyez autre chose, 88-971-102 texto.
Je sais pas, j'ai la mémoire courte. Est-ce que je vous ai parlé du PEC, le Parti de l'extrême centre?
Ah, oh, c'est rendu un parti?
Ben absolument.
C'est
là.
Officiel.
Écoute, on fait ça sérieux ou on le fait pas. Pourquoi je parle de plus en plus de l'extrême centre? C'est que je veux pas faire partie des gens qui sont gris ou beige ou qui ont pas d'idées ou d'opinions sur rien. Je veux juste qu'on recommence à se parler puis qu'on reprenne la conversation entre des gens qui pensent pas la même chose. Et de jouer au ping-pong entre des extrémistes qui accusent l'extrémiste de l'autre bord de tous les maux et de tous les péchés, je suis un petit peu à bout de ça. Et dans le dernier exemple que j'ai, il pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Moi, la gauche puis la droite l'a rendu dans l'extrême. Je vois ça exactement pareil. Pour moi, la soirée est encore jeune, puis Radio X, c'est la même chose. C'est juste de l'autre bord. T'sais, c'est des gens qui disent « Ah, vous êtes cocombe, vous êtes niaiseux, vous êtes nono. Regarde ce qu'il a dit. » Puis c'est ça. Des gens qui se méritent un peu. Je pense que nous autres, on mérite mieux. Je parle pas de nous autres, les animateurs de radio, mais je parle de vous autres,
les
ceux
gens
qui...
Milieu, là.
J'espère que vous êtes tannés autant que moi, je me suis tanné, là, personnellement. Et le dernier exemple me touche au cœur parce que j'ai pas de chiffres. J'ai juste mon vécu de papa de hockey des dernières années. Et quand un prof en Sciences Po de l'UQAM, spécialiste en antiféminisme, me dit... Tous les péchés des jeunes partent de la chambre de hockey. J'ai de la misère à le prendre comme étant une source crédible. Je vous rappelle le titre du monsieur, professeur en Sciences Po à l'UQAM, spécialiste de l'antiféminisme. Tu peux être plus beurré que ça d'un coin, mettons, là, pour dire que toute la marde là, qu'on reproche aux enfants, là, ça part du hockey. Puis ça part... C'est assez précis, là. Ça part des programmes de hockey scolaire.
Hey, c'est généralisé solide.
Hein? OK, tu le vois comme moi.
Ben oui. Ben, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, oui.
Donc, selon son étude à lui, Francis Dupuis-Déry, il dit il y a une montée de l'intolérance dans plusieurs écoles du Québec. Les comportements misogynes, transphobes et homophobes sont principalement observés chez les jeunes hommes et particulièrement dans le sport, chez les jeunes et encore plus spécifiquement dans le hockey. C'est vraiment décourageant parce qu'en fait, on sait tous les scandales qu'il y a eu depuis quelques années dans le hockey professionnel, hockey junior, le hockey senior. Et donc, apparemment, la relève qui s'en vient, ça va pas être guère mieux, a-t-il indiqué. C'est-tu de la science ou juste un gars qui a jamais été pris pour faire une sélection sur une équipe de hockey puis qu'il a gardé une petite crotte?
Mais où l'origine de ça, là?
Mais c'est ça, ça part d'où, là?
Tu sais, comment il justifie sa prise de position?
Dans l'équipe de hockey, il y a souvent un effet de groupe, un boys club. Ils se sentent supérieurs, virilistes, machistes, sexistes, homophobes, des fois malheureusement encouragés par l'entraîneur. On a compris, t'aimes pas le hockey. C'est beau. Maintenant, on peut-tu parler? Parce que moi, personnellement, le meilleur humain que j'ai vu mon grand garçon être, c'est sur une patinoire, avec ses coéquipiers, dans un match de hockey, encadré par des coachs passionnés qui leur apprenaient la victoire, la défaite, la tolérance, dans une équipe de hockey où un gardien a eu des défis dans sa vie, au moins au point où on y avait dit à lui et son père, « Fera pas de sport. » Dans une équipe de hockey où j'ai vécu des tournois où on se pointait, puis dans les équipes, il y avait des Blancs, il y avait des Noirs, il y avait des Autochtones, il y avait des femmes, il y avait des filles, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes. Puis tout ce qui dérange, c'est des rires et de la joie.
Comment s'appelle le gars derrière?
Francis Dupuis-Déry.
C'est pas lui qui était à Tout le monde en parle quand il y a eu l'affaire des Mâles Alpha?
Peut-être. Est-ce que c'est en créant des généralités grossières qu'on va avancer en tant que société ou qu'on va prouver qu'on est meilleur que les autres? Là, on est revenu dans les mêmes histoires là, que manger de la viande, ça va être un agresseur sexuel là, qu'on a eu il n'y a pas deux semaines.
Au
là.
Lieu d'essayer de trouver des solutions à un problème qui semble exister pour vrai, là, une recrudescence d'intolérance puis de certains propos, mais d'arriver comme ça puis de brander, de mettre une étiquette à un groupe terriblement précis, tellement précis qu'on parle du hockey scolaire.
Mais c'est le même genre de raccourci intellectuel pour moi qu'Élisabeth Lemay a fait en ongles.
J'ai l'impression que ce gars-là vit encore d'un film des années 80, là, où ce que le corps arrière de l'équipe de football, c'est un petit chien sale qui est protégé par ses parents.
Non, c'est pas un corps arrière, Denis, c'est un capitaine d'équipe de hockey dans une école.
Ça dépend.
Il y en a sûrement. Là.
Quand le film est américain, c'est un corps arrière de football. Quand le film est canadien, c'est un joueur de centre ou hockey qui a un talent de hockeyeur. Puis je dis pas qu'il y en a pas. Mais de là à dire la cible à laquelle il faut s'attaquer pour régler tous les problèmes de l'enfance, c'est les astuces de programmes de hockey des écoles privées? Ah ouais!
C'est parce que dans tous les groupes, on serait capable de trouver une situation qu'on pourrait ensuite exagérer
et oui.
qu'on pourrait appliquer partout, mais écoute, ça n'en ferait pas une vérité pour autant.
Moi, je touche du bois. Ça fait 4 ans que je suis un papa de hockey. Je n'ai vécu que du positif.
Ah, puis il y a des places qui ont eu de la merde, là.
Et quand quand il y a eu du négatif, ça s'est réglé de façon positive. À un moment donné, on a eu un parent qui était perturbant, et pour les autres équipes, et pour notre équipe. Puis les responsables nous ont parlé, puis on a échangé, puis on a posé nos questions, puis on a pu régler ça en adulte. J'ai trouvé ça super. Moi, je suis sorti de là, puis je me disais, waouh! On m'a tellement beurré de préjugés sur le hockey, la compétition sportive, les parents toxiques, puis tout ça. Puis veux pas, je suis dans les nouvelles. C'est sûr que je suis beurré avec ça. De quoi on a parlé au tournoi Pee-Wee? On a-tu parlé des succès ou bien des flots qui se sont battus sur la glace? On a parlé des flots qui se sont battus sur la glace. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais prendre ces cas d'exception-là, puis arriver à des généralités grossières et dangereuses, puis à Montréal, ils sont bons de ça. Ils se gargarisent avec ça. C'est le CEPACOL le matin, là.
Ah,
des études bidons de même
ben
de l'UQAM. Mm-hmm.
Ça nourrit des points.
Ah, fait, ben oui. Hein. Ben, ça fait longtemps qu'on le sait que le hockey, c'est mauvais pour la jeunesse. Hein. Puis là, on fait des liens qui n'ont pas de rapport. Hein. Regardez-les, là. Regardez-les à Maison-Blanche avec Trump. Là. Ça va être nos jeunes qui jouent au hockey, ça, un jour.
C'est sûr qu'on ne prendra pas Sidney Crosby comme exemple. Hein.
Calvasse que c'est triste.
Je trouve ça triste. Au lieu de se poser la question, hey, comment ça se fait qu'il y a des recrudescences de propos comme ceux-là? Le problème vient de où? Est-ce que c'est banalisé? Est-ce que vraiment il y a des discussions qu'on a arrêté d'avoir parce qu'on a pris pour acquis que la situation s'était résorbée avec les années, qu'on était maintenant dans une société qui était beaucoup plus tolérante, beaucoup plus ouverte? J'ai aucune espèce d'idée, mais d'arriver avec ça, qu'est-ce que ça donne?
Nos jeunes sont aux prises avec énormément de conneries qui se promènent sur les réseaux sociaux.
Entre autres.
Les jeunes entendent énormément de conneries aussi, puis ça
partout.
Vient pas juste des réseaux sociaux.
Non, ça peut venir de leur milieu, ça peut venir de plein de places.
Ça peut venir de papa-maman, ça peut venir des professeurs, ça peut venir d'un paquet de monde. Mais de là, je trouve ça terrible de prendre un secteur de vie qui aide tellement de jeunes à rester accrochés au corpus scolaire. Tu sais, pendant des années et des années, on regardait le décrochage masculin, puis on se disait, ça n'a pas de bon sens, faut faire quelque chose. On a fait les programmes de sport.
Mm-hmm.
On a fait les programmes de sport. Puis oui, je vais utiliser des généralités, mais je vais faire des généralités positives. Parce que d'un programme de sport, il y a des beaux grands jeunes hommes et il y a de belles grandes jeunes filles. Oui, c'est beaucoup de syllabes, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? puis favoriser l'excellence dans le respect, apprendre des choses éthiques, la force d'une équipe. Quand quelqu'un va pas bien d'une équipe, tout le monde tombe avec.
Le leadership.
Le leadership. Les résultats scolaires qui sont importants pour rester au sein de l'équipe, la pour victoire. Rester compétitif. La victoire, la défaite.
Absolument.
Gérer la défaite ensemble.
Quand un coach arrive dans une chambre de jeunes puis que tout le monde pleure après une défaite, il y a un rôle à jouer. J'ai vu des coachs être de grands hommes dans des circonstances comme celle-là. Il y a bien des parents qui ne savent pas quoi faire quand il y a un de leurs enfants qui pleure. Tu rentres dans le vestiaire, ils sont 20 à pleurer. Tu fais quoi?
Hey, mon Dieu, il y a tellement de coachs qui viennent en aide à des papas et à des mamans qui, des fois, sont beaucoup trop proches de leur enfant puis que dans ce temps-là, l'enfant n'écoute pas. Puis c'est le coach qui va voir des situations puis qui va se servir de ça pour amener l'enfant ailleurs.
Est-ce que le sport et le boys club peut amener des comportements dégueulasses? Je dirais jamais non à ça. Mais d'en faire une généralité puis de dire c'est le vecteur principal des problèmes de notre jeunesse, là je vais mettre les deux pieds sur le break. Puis je vais être obligé de dire sont où vos programmes scolaires à l'UQAM, là? Qui vous montrent tout ça, là. Parce que facile d'aller dans des écoles qu'on connaît pas, puis regarder ça avec le nez en l'air, puis voir ça comme une vieille série de Grassi, là. Mais je pense qu'il y a des gens qui partent avec des idées préconçues et préreçues. Parce qu'on dit une étude, mais moi, je vois pas un chiffre là-dedans. Tout ce que je vois, c'est un tissu de généralité grossière. Puis ça ressemble beaucoup à la fille à Radio-Canada qui fait de la victimite depuis qu'elle a dit un paquet de conneries sur l'homme puis qu'elle n'est pas capable d'assurer et d'assumer les paroles qu'elle a dit.
Tu sais, un texto qui vient d'entrer, puis je trouve que ça amène un point, par exemple, qui est intéressant. Ce qui est tannant, c'est que ce genre de propos-là, ce genre d'études-là, ce genre de sorties-là, ça enlève la crédibilité au fait que, ben oui, il y en a dans certaines équipes d'hockey des comportements nocifs. Mm-hmm. Il y en a.
Il y en a dans d'autres types d'équipes
mais
aussi.
Exactement.
Dans des classes qui ne font pas de sport.
Ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de parler de ces choses-là parce que c'est tellement généralisé que ça devient fâchant. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit « Toute ma jeunesse, les équipes d'hockey dans mon entourage s'en étaient des bullies. Un petit groupe d'intimidateurs sur un piédestal. Ajoute la culture de hockey chez Hockey Canada qui protège des violeurs, blablabla. » Bon, là, c'est très grand et généralisé comme texto, là. J'ai envie d'y croire, mais je crois que ça change et Denis semble voir la transformation et tant mieux. Il y en a des mauvaises expériences dans le sport, mais il y a aussi beaucoup de beau à ça. Puis c'est une question d'équilibre dans la façon de l'amener.
Exact. Puis dans l'élite de l'élite et l'excellence de l'excellence, tu vas avoir une petite portion de baveux. Mais maintenant, des programmes scolaires, il y en a à peu près dans toutes les écoles du Québec. C'est des gens qui vont apprendre les rudiments du sport, les rudiments de la vie. Et c'est des petits gars et des petites filles qui vont passer à travers les années secondaires. Il y en a beaucoup là-dedans que tu n'as pas le sport, puis ils vont perdre cette notion-là. Quelqu'un qui nous écrit « Plus que ça, amener le sport dans les écoles a permis de payer un salaire raisonnable à des entraîneurs compétents qui ne sont pas parents parce qu'ils ont la responsabilité de plusieurs équipes, soit comme entraîneur principal ou adjoint. En plus, en travaillant en équipe, ces entraîneurs ont pu développer des programmes intégrés, progressifs et cohérents au sein des organisations. »
Et je pense que ces entraîneurs-là, au fil des années, ont contribué à casser des moules qui pouvaient peut-être être toxiques, effectivement, dans certaines organisations, parce qu'ils sont là. Fait que souvent, c'est eux qui vont casser des égos. C'est eux qui vont casser des jeunes dont la gueule prononce probablement pas les bonnes affaires parce qu'ils répètent des choses qu'ils ont entendues puis ils n'ont pas conscience de l'impact des mots. C'est souvent ces personnes-là qui vont intervenir en première ligne en disant « Hey! » Ce que tu viens de dire là, ça n'a pas de bon sens. Ou telle affaire que t'as dit à un adversaire, ça glace, t'as rendu compte de ce que t'as dit, tu sais. Fait que ça m'agace d'arriver avec un portrait aussi grossier.
Tu vas toujours avoir des histoires de petits prodiges sportifs qui sont protégés par leur institution ou qui sont protégés par leurs parents. Mais derrière ces histoires-là, il y a combien d'histoires de simples humains qui utilisent le sport pour passer à travers leurs études, puis qui vont apprendre un paquet de choses qu'ils n'auraient pas appris dans un cours d'algèbre ou dans un cours de français progressif. Tu sais, je sais pas. Je trouve ça plate qu'on généralise à ce point-là, alors qu'on est quoi? Une semaine après les Jeux olympiques où on nous a inondé nos écrans d'un paquet de beaux talents, de beaux sportifs, de belles sportives, toutes catégories confondues. Tu sais, même nos joueurs canadiens, là, j'ai fait bien des jokes avec les hôtels 5 étoiles. Là. On peut dire qu'ils se sont comportés comme des grands hommes et des grandes femmes.
Oui, il n'y en a aucun qui a déchiré un toutou sur la glace.
Moi, je trouve qu'ils nous ont montré c'était quoi perdre dans l'honneur.
Ouais.
Puis je comprends que te faire donner un petit toutou en plus quand tu perds, c'est pas super. Là.
Donnez-le en même temps au pire, pas après.
En tout cas, regarde, je vais peut-être déchanter à partir de l'an prochain, puis c'est peut-être un reflet des craintes que j'ai un peu, parce que mon grand s'en va dans un programme scolaire de hockey, puis je me demande si c'est un bon choix que j'ai fait pour l'avenir de mon kid, mais quand je vois à quel point le hockey, c'est une partie importante de sa vie, à quel point il est prêt à se lever, ramasser son bâton, ramasser ses patins, faire 1 kilomètre de marche pour aller passer la journée sur une patinoire extérieure, puis c'est rendu qu'il se fait un sandwich avant de partir, je me dis, crème, faut que ça serve.
Mais c'est une question d'éducation.
C'est ça, je pense que ça passe beaucoup exact. Par les parents aussi. Là, tu sais, des fois, comme parent, tu vas dire quelque chose trop rapidement ou tu vas propager un préjugé sous le signe de l'humour ou des fois sous le signe du préjugé aussi. Tu sais, souvent, c'est ça qui va faire son petit bonhomme de chemin. Mmh. Pas mal plus que des ados. Les ados, ils n'ont pas ça infus. Là. C'est pas arrivé de nulle part. Ils prennent en quelque part, exactement. Puis, fait que ça vient avec l'éducation de « Hey, le respect, c'est là-dedans. Là. »
Puis les petits bums, là, s'ils sont pas dans l'équipe de hockey, là,
ils vont être ailleurs.
À Charles Gravel, à Polyvalente, on n'avait pas d'équipe de hockey. On avait des petits bums, par exemple. On avait une maudite gang. Puis il fallait faire avec. C'est malheureux, les affaires de même. Puis c'est pour ça que l'extrême-centre existe, messieurs, dames. C'est pour essayer de faire le pont ou de montrer qu'il y a un milieu entre ces deux extrêmes-là qui, maintenant, tout ce qu'ils font, c'est jouer au ping-pong. C'est de la faute à l'autre.
Ta gang est pire que la
mienne. Ah, les maudits gauchistes de l'UQAM. Ah, les maudites écoles privées à marde avec le programme qui favorise l'excellence puis qui discrimine les minorités. T'sais, on n'est pas tanné de ça. On n'a pas fait le tour depuis 10 ans de ça. Là. On n'a pas le goût d'être ailleurs,
tellement
toute la gang
le fun,
ensemble.
Hein, de pointer que de trouver des solutions.
Ou on peut juste jouer nos vieilles tounes. Là. On peut reparler du référendum pendant encore 10 ans. Je sais pas. Il est 15h25. Vous êtes à Boulevard. C'est Gravel dans le retour. On s'en va sur les routes. Petite accalmie au niveau des flocons. 2 à 4 cm d'ici ce soir et 2 à 4 cm au cours de la nuit. Audrey.
Si vous êtes sur la capitale, direction Est, en ce moment, il y a des problèmes à la hauteur de Robert Bourassa. Surtout Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid, Amel et la capitale. Capitale, direction Ouest, ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravoure, assez congestionnée pour le moment. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Et pour ce qui est de la rive sud, la 20 Ouest, hauteur Taniata, c'est toujours pas terminé. Autre chose, 88-971-102. Un texto.
Je viens d'une petite municipalité qui s'appelle Saint-Fulgence. À Saint-Fulgence, il y a 2 dépanneurs puis un magasin général. Oui, on l'appelle encore le magasin général. Chez Achille. Chez Achille, c'est là que tu vas quand tu as besoin de planches, d'un barbecue, d'un traîneau pour les flots. C'est n'importe quoi, là.
Ah, okay? Ma place préférée, ça.
Ouais. Chez Roger, qui est une accommodation, tu vas chercher ton pain.
Particulièrement.
Parce que le pain Roger, il est pas battable. Mm. Il est fait frais à tous les jours.
Il faut encore.
N'importe qui a un chalet dans Mont-Vorlin va arrêter chez Roger pour aller chercher son pain avant de flyer. Moi, à chaque fois que je monte au Saguenay, ma blonde m'a bien averti. Si je reviens pas avec 2 pains Roger, je rentre pas dans la maison.
Maison.
L'autre, c'est celui qu'on appelait, parce que c'est plus ça, mais c'est un super Sagami. Oui, il y en avait partout, des super Sagami. Oh. Le super Sagami à Saint-Fulgence a un comptoir SAQ. Un comptoir SAQ, là, c'est la place où une petite place peut être un peu douchebag avec les grandes villes.
On appelle ça une agence, hein, c'est ça?
On appelle ça comme tu veux, mais à la même heure que le dépanneur est ouvert, tu as une sélection de vin d'un best-seller de la SAQ. Tu ramasses la bouteille que tu veux, passé 8 heures. Avant 23 heures.
Ça aussi, les gens qui ont des chalets, c'est Mont-Valin, ils le savent. Parce que souvent, tu portes de bonne heure. Fait que tu fais toutes tes commissions, là.
Pas pour rien qu'il y en a qui arrêtent en skidou, là.
Oui.
Mais j'ai toujours trouvé ça tellement simple et tellement efficace. Je sais qu'ici, on en a quelques-uns aussi, en avant du village vacances Valcartier.
Dans le Nord.
Dans le Nord. Tu sais, on a des SAQ où les conventions sont rendues tellement lourdes qu'on ouvre juste à des heures où les vrais humains travaillent. Bref, Audrey, pour boucler la boucle, on ouvre rien que pour les vieux parce qu'ils n'ont rien que ça à faire.
Bon.
Bon. Mais les gens ordinaires qui
pourraient... Extrême centre et âgisme.
Qui pourraient...
ça va pogner cette affaire-là.
Mais ici, c'est les jeunes puis les vieux.
Tu sais que tous les extrêmes ont leurs défauts. Ouais. Hein? C'est ça qui arrive. Avec
les autres, on n'accepte pas les vieux.
Est-ce que la vente de prêts à boire fait à partir d'alcool distillé qui va être permis dans les dépanneurs et les épiceries, c'est le début de quelque chose? Ouais. C'est-tu le pied dans la porte qui va permettre d'aller un petit peu plus loin?
Ah, mais Denis, il va plus loin que ça. Ça fait des années. Tu sais, au Québec, on a commencé avec les microbrasseries.
Oui.
Puis ensuite de ça, les distilleries sont arrivées. Essayer d'acheter des produits d'une distillerie quand tu vas dans sa région ou encore quand tu vas sur place, tu payes le même maudit prix qu'à SAQ. Il n'y a aucun avantage. Leurs marges sont tellement minuscules. Puis ils crient, on a besoin de changement des réglementations. Puis on dirait que le gouvernement fait la sourde oreille depuis des années. Là, on a une mini ouverture dans une porte.
Avant qu'on se mette à philosopher puis à regarder les possibilités, entre autres pour la vente de vin, on va jaser avec Mathias Turcotte, notre journaliste. Mathias, salut.
Yes, salut.
Dans l'industrie du prêt à boire, c'est-tu le game changer qu'on demandait puis qu'on avait besoin?
C'est un game changer, oui. Ça va faire une différence. Là, parce que, pour vous donner une idée, on parle de tout ce qui est 7% et moins. Donc, okay. Tout ce qui est au-dessus de 7% d'alcool, ça va pas pouvoir être vendu. Donc, pour les distilleries, quand on parle d'alcool fort, du gin, de la vodka, ça va pas être disponible, même si c'est un peu dilué. C'est vraiment 7% ou moins en canette. Je me suis entretenu aujourd'hui avec Pascale Vaillancourt, qui est la copropriétaire et une créatrice de spiritueux chez Ubad Distillerie.
Ah oui, du bon monde, la gang d'Ubad. On les a, on a jasé avec eux autres une couple de fois. Oui.
Pour justement savoir qu'est-ce que ça allait changer pour eux autres et pour les consommateurs. Elle m'a bien sûr affirmé, c'est une bonne nouvelle là, pour l'industrie, on ne va pas s'en cacher. Par contre, elle a tenu à apporter un petit bémol par rapport à la manière que tout va devoir se déployer.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Il faut voir comment ça va s'exécuter dans le marché. Fait que c'est un peu ça, parce que les tablettes dans les détaillants, chez les détaillants, chez les marchés, les tablettes en SAQ, elles sont déjà occupées, sont déjà pleines. Fait que ça rouvre pas des nouvelles tablettes nécessairement, mais c'est sûr que ça diversifie le marché. Mais le marché chez les détaillants est quand même occupé présentement par certains fabricants, certains producteurs de boissons, d'autres types.
Explique-moi, Véro.
On s'en est parlé dans les dernières années. Les producteurs d'alcool, c'est sûr, entre autres pour les bières, ont diversifié leur marché avec énormément de prêts à boire à base de malt.
Les Coors Light de
exactement,
ce monde.
Exactement, toutes ces variétés-là.
Les Seltzers.
Oui, les Seltzers, les Hard Seltzers, tous les prêts à boire que vous voyez. Parfois même, si vous allez voir les Smirnoff. Smirnoff, dans notre tête, c'est de la vodka, mais eux ont une version avec malt qui sont déjà sur les tablettes. Fait que l'espace est effectivement déjà très occupé dans les prêts à boire. Moi, je pense qu'il y a un marché pour les prêts à boire avec de vrais spiritueux à la base, pour des questions, entre autres, souvent de calories, de glucides, de tout ce que vous voulez, ou simplement de goût. Là.
Je pense que les produits québécois ont la cote aussi.
Ça, c'est l'autre affaire. Il y a une faveur très naturelle vers les produits québécois parce qu'ils font des maudits beaux produits en partant.
Bien, il faut peut-être juste se rappeler, puis Mathias, t'es peut-être trop jeune, mais il faut peut-être juste se rappeler qu'à une certaine époque, avoir de la microbrasserie dans une accommodation,
mon Dieu,
c'était une section poussiéreuse, là, c'était vieux comme un grimoire, il fallait que t'enlèves la poussière sur la fenêtre.
Trouver les quatre bières du Nibrou.
Il y avait une bière avec un rat dedans, t'avais une bière. T'avais les quatre sortes du Nibrou, effectivement, quand t'étais chanceux, mais tu sais. À une certaine époque, la microbrasserie, ça occupait à peine 1 % ou 2 % de ce que tu avais à offrir. Regarde maintenant les sections dans les chaloux de la région de Québec. Tu sais, c'est des milliers de bières de microbrasserie québécoise. Fait quand le produit est là, la qualité est là, ben la demande est là, puis on devrait se servir de ce modèle-là comme un signe encourageant là, pour les distilleurs.
Mon épicerie avant avait une belle petite section cadeaux et fleurs. Fait que là, c'était le fun, t'allais faire ton épicerie puis t'allais fouiller ça. Maintenant, c'est de la microbrasserie qu'il y a là. Parce que justement, la demande était tellement importante qu'on a carrément changé. Puis tu sais, oui, avant, t'avais des dépanneurs qui étaient un petit peu plus spécialisés. Mais là, maintenant, on s'est arrangé pour rendre l'offre sur place parce que les consommateurs, la demande est présente.
Puis c'est sûr, même si la demande est présente, c'est sûr qu'il va y avoir besoin d'adaptation, là, parce que présentement, on en parlait sur les tablettes, c'est beaucoup les gros joueurs de bière. Ouais. Là, on parle de Molson, on parle de Labatt. Que les petits joueurs québécois en distillerie vont devoir se battre pour avoir ces places-là. Là, mais c'est une bonne nouvelle, en général, pour ces compagnies-là. Par contre, pour le consommateur, ça veut dire quoi pour lui? Est-ce que ça va coûter moins cher?
J'imagine que oui.
Nos auditeurs, ben c'est là encore que ça devient intéressant.
Il n'y a pas les détails qui sont sortis sur la réglementation.
Il faut prendre compte. La loi, présentement, fait en sorte que la SAQ va avoir une marge sur ces produits-là qui vont être vendus.
Même si elle les distribue pas.
Même si elle les distribue pas. Puis même encore, on n'a pas encore les détails. Ça se pourrait presque que les produits soient distribués par la SAQ, dépendamment de comment on chemine le tout. Donc, Mme Vaillancourt, c'est ça qu'elle m'a expliqué, va falloir voir, pour une baisse de prix, va falloir que vraiment tout le monde dans le processus soit bon joueur.
Ben c'est dur à dire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment ça va être appliqué sur le marché. Par contre, j'espère que tout le monde va être assez intelligent pour dire, écoute, la compétition doit être loyale, c'est-à-dire que tu sais, moi, je peux pas vendre nécessairement un paquet de 4 canettes à un prix le double ou le triple de ce qui est déjà vendu sur les tablettes en produits similaires. On parle d'alcool de malt, d'alcool à base de cidre, tout ça. Donc, c'est sûr et certain que faut falloir que chacun soit bon joueur, autant les détaillants, autant la SAQ, autant le producteur.
Ben, tu sais, à partir du moment où la SAQ n'est pas un facilitateur, puis que ça devient un emmerdeur, torsez-les du processus, puis qu'eux autres...
Qui demeure le grossiste, c'est ça l'affaire.
Qu'eux autres aient l'intelligence de se tasser aussi, parce que la SAQ qui se prend une grosse cote pour payer ses gros cadres, je veux dire, le consommateur, moi, dans ma tête de niaiseux, c'était pour lui qu'on nationalisait ça, là, les SAQ puis tout ça. Mais si on fait juste entretenir les cadres d'une SAQ, puis moi, c'est là que je veux pousser le raisonnement avec vous autres, on a-tu encore besoin de ça avec autant de SAQ qui ouvrent pas aux bonnes heures, qui a plein de... Tu sais, sans garder une coupe dans chaque région, là.
Les genres de sélection avec plus de produits, une plus grande variété, des produits plus pointus.
Garde les meilleurs, là, ceux-là, les Audrey, là, qui aiment ça jaser avec le monde, puis tout. Puis le reste, ben excusez-moi le terme, le reste, crissez ça dans les dépanneurs et dans les épiceries. On va se servir, on va être correct.
En attendant de se rendre là, la SAQ demeure le grossiste, puis il devrait voir la possibilité de vendre des prêts à boire dans des épiceries, des dépanneurs comme étant une plateforme pour ce qu'eux vendent. Parce que, tu sais, d'un autre côté, si t'aimes le prêt à boire d'une distillerie québécoise, tu vas peut-être avoir le goût d'acheter son gin, sa vodka, son autre spiritueux qui est juste disponible en SAQ aussi. Tu sais, la SAQ, il y a beaucoup de défauts, entre autres, par rapport au prix, mais ils ont fait une foutue job pour mettre en valeur les produits québécois. Oui, leur marge est encore trop grande. Oui, les producteurs en ont pas assez de leur côté.
Mais ils ont de la misère. Même si les produits sont en évidence, ces tablettes, ils ont de la misère.
Mais le fait de se faire voir, la SAQ a bien fait les choses, ça a aidé. Sauf que la SAQ a encore beaucoup de défauts.
Puis j'ai hâte de voir comment elle va gérer le dossier parce que techniquement parlant, il y a un scénario que la SAQ prend une marge trop grande, que le produit, s'il se retrouverait en épicerie ou en dépanneur, faudrait le vendre au même prix que la SAQ, sauf que je vous rappelle qu'il y a des taxes par-dessus, ce qu'il n'y a pas à la SAQ présentement. Alors, fait que si on suit ce scénario-là...
Si on fait ça pour rien.
C'est exactement ce que Pascal Vaillancourt me disait.
Ben oui, mais j'espère que c'est pas le scénario qui va arriver, parce qu'en fait, ça va vouloir dire que ce que le gouvernement a permis, ben il y a personne qui s'est entendu, puis que ça... Au bout du compte, ça va rien donner. Puis que les produits faits par les distilleries au Québec, les prêts à boire, ils ne pourront pas se retrouver sur les tablettes parce que finalement, on arrive à un prix qui n'a pas de bon sens. Moi, je pense pas que les gens vont arriver là. Il y a de l'ouverture, puis les gens vont se parler. Les détaillants vont se parler, la SAQ va se parler, les producteurs vont se parler. Parce que sinon, c'est comme si le gouvernement avait rien fait, dans le fond.
D'après moi, c'est pas la première fois que Pascal Vaillancourt a affaire avec le gouvernement parce que je la trouve lucide et prudente. Oui. Alors que moi, je saute sa bonne nouvelle, puis je vois déjà le décloisonnement général, puis je respecte leur intelligence.
Ben je veux dire, par contre, il y a prudence, oui, mais on était très enthousiasmés aussi.
Je comprends.
Puis elle me l'a dit, c'est le type de nouvelle qui pourrait faire en sorte que Cubat, par exemple, accélère le processus pour faire justement des prêts à boire en canette. Parce que là, on vient diversifier un marché, on vient diversifier des points de vente. Ça devient très intéressant pour des compagnies québécoises.
Puis à partir du moment où ils ont leur vodka puis leurs affaires, on pourrait même décider d'être chauvin à l'os puis de dire que les seuls alcools forts qu'on retrouve dans les accommodations et les dépanneurs, c'est nos alcools forts, c'est nos produits locaux. Parce que là, bien du monde se sont lancés dans vodka et dans le gin, mais de plus en plus, on va en avoir d'autres. Là, parce que ces gens-là, c'est long faire du whisky puis des affaires de même.
Ah, tu penses une bonne idée.
Ben, eux autres, ils développent leur marché en fonction de ça. Si d'un dépanneur, les seuls que tu peux vendre, c'est ceux qui sont québécois puis t'es à prix préférentiel, il me semble qu'on se rend service, là.
Non, mais t'as raison.
Je trouve ça vraiment intelligent.
Puis Samuel
Poulain, on réfléchit dans l'extrême centre, tu sauras.
Samuel Poulain, qui est le ministre délégué à l'économie au PME, il a mis ça en place justement pour alléger les distilleries qui se développent un peu partout au Québec. Une solution comme la tienne, Denis, ça pourrait leur donner un gros coup de pouce.
Éric a tellement une bonne réflexion. Pourquoi le gouvernement n'a pas négocié ça avant de l'annoncer? L'intention fait partie d'un projet omnibus. Il y a plusieurs autres éléments où on vise à alléger la charge pour les entrepreneurs.
Ils font comme le maire Marchand avec les travaux pour le tramway. T'sais, on les annonce, puis on va négocier les ouvertures et les horaires après.
C'est pas mis en... À leur défense, c'est pas mis en place encore. C'est un amendement qui a été placé dans le projet de loi 11 qui vise justement à aider les PME au Québec. J'ai terminé avec une dernière question maintenant que les prêts à boire sont permis. Est-ce que la prochaine étape, c'est de mettre fin, entre guillemets, au monopole de la SAQ puis dire les alcools distillés seront disponibles dans les épiceries et dépanneurs?
Je dirais oui, mais...
Écoute, ça, c'est un gros rêve, là. C'est un gros rêve, là. Je pense pas qu'on aille jusque-là. Ben, en fait, c'est une grosse réglementation. Mais déjà, d'ouvrir des portes, comme il a été fait, qui a été annoncé hier par le gouvernement, mais c'est déjà une... C'est déjà des bonnes nouvelles. Si on ouvre des portes pour les prêts à boire qui sont à moins 7 % d'alcool, bien, ça veut dire que on sait que les distilleries, c'est des petites PME qui font vivre, qui créent de l'emploi dans leur région. Fait que je pense que, tu sais, il y a quelque chose de positif là-dedans.
Ça, c'est Pascale Vaillancourt, copropriétaire, créatrice de Spiritueux pour Ubald Distillerie. On a reçu un texto pour une correction. Il y a la TPS et la TVQ à la SAQ. C'est juste que le prix affiché inclut les taxes. C'est une subtilité, là. Mais moi, j'ai l'impression que présentement, dans une société qui crie famine puis aidez-nous, là, je pense que les SAQ à tous les coins de rue, avec la structure qu'on a, c'est un luxe qu'on peut juste plus se payer.
Si on cherche du gras coupé, là...
Ben, tabarnouche, parce que c'est la Cadillac de la distribution d'alcool. Mais là, on ne peut plus monter dedans. On n'a plus les moyens, on n'a plus l'argent.
C'est beau comme image.
Merci, man. Moi, je fais des images.
Tu crées, hein?
Ah, je crée. Je me crée beaucoup, en fait. Fais de la fantaisie. Hey, j'étais content tantôt, vous avez parlé de Pour un instant.
Bon, on l'a perdu.
C'est une petite bonne toune, ça. Je me souviens.
C'est glissant dehors, André. Ouais. Facile de déraper.
Facile de prendre le champ,
moi. Ouais, avec ça avec des chums, là. On était...
Denis, reviens-nous.
Hein?
T'es-tu possédé?
Bonjour.
C'est qu'à parler de chums.
Malade, man, que Serge Fiori parle à travers moi une fois de temps en temps. Vu que j'ai été le réceptacle de sa dernière entrevue, à tout bout de champ, je deviens possédé de Fiori. Non? Je pourrais reformer Harmonium.
Ton rêve.
Oui.
Sûrement le rêve des gars d'Harmonium aussi. Check le clou.
Tout le monde ensemble.
Check le petit à Québec.
n'a pas un crime qui me croit. Là. Oh oui, je suis Serge Fiori.
Ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent t'accueillir avec, tu sais, les belles longues camisoles que tu fais deux tours avec les bras pour attacher en avant. Là. Oui.
T'as le montré que c'est moi. Regarde, m'a appelé la bombe. Là.
Oh, qui niaiseux. Ça a pas
bon,
ça.
Le téléphone.
Hey, pendant deux secondes, je pensais qu'on allait avoir accès à une pièce de théâtre entre la bombe et Fiona.
Non.
T'es la même personne, j'étais là, j'écoute. Là.
Ma voix créatrice vient de s'éteindre.
C'est à la fois.
Oui, oui, absolument. Mais juste pour revenir à la base, j'en reviens pas que ce soit pas encore abordé dans la discussion. Ah ben non, c'est vrai, on est occupé à parler de référendum encore. Hein, faudrait surtout pas s'occuper des problèmes du monde qui commence à crever de faim, la classe moyenne qui devient de plus en plus pauvre. Et si on prenait tout l'argent qu'on investit et qu'on engloutit dans des bâtisses et du monde qu'on a plus ou moins besoin, on garde les meilleurs. Je sais que c'est plate pour le monde qui vont perdre leur emploi, là.
Et Denis, au pire, t'en gardes plus à certaines places puis t'allonges les heures.
Ou au pire, tu peux prendre aussi des conseillers SAQ puis lui donner des heures dans les épiceries puis dans dépanneurs. Il y a comme plein de possibilités. Mais à partir du moment où il y a du vin d'accessible dans les dépanneurs, dans les épiceries, puis que les meilleurs vendeurs sont là à 90 %, il y en a beaucoup là, qui mettront pied à pied d'une SAQ jamais, là. Puis on n'aura plus besoin de toutes ces bâtisses-là, là. Tu sais, l'alcool, là, c'est pas la potion magique, là. On n'est pas obligé de tout faire la file à la même place pour aller chercher ça, là. Un moment donné.
De toute façon, le problème va se régler avec la nouvelle génération qui boit beaucoup moins.
Ouais, peut-être. Mais ça, c'est une autre raison, tu sais, dans une perspective d'avenir. Reposer la question, le luxe de la SAQ, la Cadillac de la SAQ, c'est une belle image. Est-ce qu'elle est encore nécessaire dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans toute la province de Québec? Hey, merci, Mathias.
Ça fait plaisir.
Tu nous fais philosopher. Ça travaille des jeunes. Prends des notes, Audrey. Là. Je sais que tu as plein de
préjugés. Tu disais que les jeunes n'étaient pas bons, mais gars, Mathias,
ouais, la jeunesse incompétente.
Ah, t'attaquais des jeunes, toi?
Attends, fait du jeunisme. Tu entendais que t'étais pas bon.
Hey, ça pas oh, bon Dieu,
tu manques d'humanité,
Audrey. Là, Matt,
oui.
Des fois, quand tu vas à l'épicerie, là,
oui.
Tu remarques-tu qu'il y a des jeunes de comme 14-15 ans qui sont plus sur leur sel puis qui jasent ensemble leur fin de semaine puis du petit gars qui ont croisé en soirée le
les
samedi?
Les préjugés.
Ça n'a pas de bon sens.
Les généralités.
T'es-tu allé au dépanneur un matin?
OK,
ça,
tu pas. Ouais, mais c'est, tu vas au vrai caisse, toi?
Moi, je vais au vrai caisse. Il rit. Voyons, lui, c'est ça qu'il l'a engagé, pour vrai.
Le point va à Mathias.
Je suis là, puis je prends soin de lui. Check comment il me traite.
Ben oui.
Hey, jeunesse ingrate.
Je t'ai vu aller. Hein. Hey, Matt. Je peux t'appeler Matt. J'avais l'impression que c'était un pitch à Bernard.
Hey, je voulais être cool. Hein.
OK. 4h-10. On s'arrête, on vient. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmateota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Il s'ajoute régulièrement des nouvelles destinations au départ de l'aéroport international Jean Lesage. Et là, il y a une nouvelle destination qui s'ajoute et c'est Marseille, accessible par vol direct cet été au départ de Québec. Pourquoi Marseille? Vous allez comprendre pourquoi cette destination-là me parle beaucoup. Pour son charme
pittoresque. Pour danser le Mia.
Entre autres, pas de pacotille, chemise ouverte. Hey, t'as ce look-là aujourd'hui. T'as ton look Marseille. Ça fonctionne.
Hey, il danse le mien.
C'est l'accent chantant des Marseillais. Ça fit avec l'ambiance qu'il y a là-bas. Je vous parlais du charme pittoresque, les façades colorées, les balcons fleuris, les spécialités culinaires, la bouillabaisse et la soupe au pistou, qui est une soupe aux légumes avec un pistou. C'est comme un pesto, mais pas de parmesan dedans. Fait qu'Audrey, tu serais correct. Il y a des endroits où passer un moment convivial et festif en bord de mer. Il y a le parc national des Calanques, les eaux bleues turquoise qu'on y retrouve, sa faune, sa flore, le vieux port dans le coin. Et le climat particulièrement clément. Plus de 300 jours de soleil par année. Statistiquement, ça va plutôt bien. Puis de Marseille, bien, on accède facilement, à, entre autres, à Aix-en-Provence, Avignon, la Côte d'Azur et les Alpes de Haute-Provence. Cet été, Air Transat qui va relier Québec à Marseille chaque jeudi par un vol direct. Pour en savoir plus, décollerdequebec.ca ou encore demander à votre conseiller en voyage de voler au départ de Québec.
Audrey, il y a Pierre-Luc qui nous écrit par texto qui dit « La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille de 6 ans dans la voiture. Arc, papa, la fille à la radio, elle est donc bien dégueu. »
Tellement d'accord.
Et t'as mentionné que Pierre-Luc a eu à utiliser son autocorrecteur parce qu'il avait d'abord écrit « La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille de 6 ans a dit dans l'auto « Arc, papa, la folle à radio est dégueu. » Puis là, il a écrit « La fille, mon Dieu, la fille!
Ah! » Hey, je la salue. T'as raison, c'est dégueu. On devrait pas faire des choses comme ça.
Oh bien, maudite fille.
Chez Énergir, ça fait 20